BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission, le club BFM Crypto. On est ensemble pour une demi-heure, on va parler de Mika, évidemment on en parle beaucoup en ce moment, hein. Il y a une étape qui a été franchie, on va parler de Bitcoin, on va parler aussi de marché prédictif dans cette émission avec mes invités. Jonathan Ascovici est à distance, fondateur de Stackinsad. Vous nous recevez bien, Jonathan ?
Oui, bonjour Sandra, bonjour à tous.
Bonjour, Marc Lécorché est avec nous également, président et cofondateur de Quarks.
Bonjour Marc.
Grégory Raymond, cofondateur de The Big Whale, est avec moi. Et Pierre Dormesson, bonjour Pierre.
Bonjour Sandra.
Partner chez DLA Piper, on dit comme ça.
On dit comme ça.
On parlera de marché prédictif avec vous deux. Vous nous écrivez aussi notre adresse crypto@bfmbusiness.fr pour nous poser toutes vos questions sur le secteur. On y répond tous les jeudis entre 15h et 15h30. Le club, c'est parti. Et Jonathan, je commence parce que vous êtes à distance et vous êtes un homme pressé, un entrepreneur pressé. Ça fait plusieurs semaines qu'on parle évidemment de ce Mika sur ce plateau. J'aimerais un petit peu quitter la théorie. Si vous deviez résumer un an de travail, hein, parce que vous avez travaillé sur Mika bien sûr, en une seule phrase, Jonathan, vous diriez quoi ?
Écoutez Sandra, c'est une question évidemment d'actualité parce que je sais que vous en parlez régulièrement sur votre plateau depuis maintenant plusieurs semaines. Et moi, je vais vous exposer un peu mon retour d'expérience en tant qu'entrepreneur qui a vécu ça de l'intérieur. Et c'est vrai qu'on pourrait croire que Mika, c'est simplement une mise à jour réglementaire, mais en fait, c'est carrément un changement de modèle. On passe finalement d'une start-up tech à une entreprise qui doit fonctionner comme une institution financière. Et ça, je crois justement que beaucoup de personnes ne le voient pas aujourd'hui. Donc quand on parle de Mika, on pense évidemment à une nouvelle réglementation. Mais en réalité, pour un dirigeant, c'est surtout une transformation profonde de son entreprise. Donc Sandra, si je devais résumer cette année en une phrase, je dirais que Mika nous a pas seulement demandé d'être conforme, mais nous a poussé à être une entreprise beaucoup plus solide.
Avec évidemment, vous l'avez dit, beaucoup de conformité, mais beaucoup de procédures à la clé, Jonathan.
C'est clair qu'on pensait, et je pensais au départ que ça allait être surtout répondre aux exigences du régulateur, et en fait avec le recul je me rends compte que c'était seulement la partie visible de l'iceberg, parce que le vrai travail justement a consisté à reconstruire tout ce qui permet à une entreprise financière de fonctionner durablement.
Ça veut dire quoi concrètement ?
Alors c'est vrai que moi, pendant très longtemps, je pensais que ce qui faisait la différence entre deux entreprises crypto, c'était principalement leur tech. Et aujourd'hui, effectivement, et ça, je pense qu'on en parle beaucoup sur votre plateau, on assiste surtout à une convergence des technologies. Et finalement, la différence, elle se fait un peu plus, je dirais, dans les coulisses. Avec, alors évidemment, je ne vais pas tout lister parce qu'il y a énormément de choses, mais repenser toute la gouvernance, mettre en place des contrôles internes très poussés, renforcer la cybersécurité, organiser la gestion des risques, etc. Enfin, vous voyez, la liste est extrêmement longue. Et souvent, en fait, je pense que les utilisateurs ne voit pas forcément ce que ça implique, alors que c'est probablement justement le plus important.
Ouais, faut voir le positif. Vous avez monté en compétences, Jonathan. Hein, finalement, vous avez presque changé de métier dans l'idée.
Alors, c'est vrai que comme je le disais à l'instant, on passe d'une entreprise tech à une vraie entreprise financière. Et c'est là où, quelque part, le mot fintech prend tout son sens. Hein, parce qu'en fait, au début, les boîtes tech, elles devaient innover à tout prix sur le domaine de la technologie. Et là, effectivement, maintenant, on voit qu'il y a toute la dimension financière, donc quelque part des entreprises traditionnelles, qui vient rentrer justement dans tout ce dispositif. Et là, maintenant, on doit construire justement des sociétés qui vont durer au moins sur les 10 prochaines années. Et ça, je pense que c'est clairement un profond changement par rapport à notre industrie aujourd'hui.
Dites-nous comment ça s'est traduit concrètement chez Stackinsad.
Écoutez, Sandra, nous, ça fait plus d'un an qu'on travaille sur une nouvelle plateforme. Et justement, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, notre défi, c'était clairement de reconstruire complètement Stackinsad, tout en servant en fait nos utilisateurs au quotidien. Donc c'est justement pour ça que pendant plus d'un an, on a fait en simultané, vivre cette plateforme Stackinsad, hein, donc ce que moi j'appelle la plateforme Stackinsad V1. Et en même temps, on construisait cette plateforme V2, donc cette nouvelle plateforme V2, et on a dû repenser toute notre infrastructure technique, notre gouvernance, nos partenaires, les parcours clients. Donc voilà, donc c'est vraiment un peu plus qu'une nouvelle plateforme, c'est carrément un nouveau Stackinsad qu'on a créé depuis un an.
Pourtant, vous avez annoncé, Jonathan, que vous avez suspendu temporairement les achats de Bitcoin sur votre plateforme historique. Pourquoi ?
Alors oui, donc effectivement, notre objectif, c'était de basculer directement notre plateforme historique vers cette nouvelle plateforme sans interruption de nos utilisateurs. Après, voilà, les derniers échanges intervenus dans le cadre de notre instruction nous conduisent aujourd'hui à organiser une période transitoire pendant que cette instruction se poursuit. Et c'est pour ça que nous avons suspendu les nouveaux achats sur la plateforme historique. Néanmoins, j'aimerais quand même rappeler une chose très importante. Il faut bien distinguer deux sujets. On a d'une part le calendrier réglementaire et d'autre part le projet de transformation que nous préparons depuis plus d'un an. Et ce projet-là, évidemment, il suit son cours comme prévu. Les développements techniques sont achevés. Nos principaux partenaires ont été contractualisés. Et nous sommes aujourd'hui du coup dans cette dernière étape avant de pouvoir lancer cette nouvelle plateforme auprès de nos utilisateurs.
Et pendant cette suspension, les bitcoins sont en sécurité ?
Alors c'est probablement la question la plus importante, Sandra, parce qu'il y a vraiment une dimension où on doit réassurer au maximum nos clients de ce point de vue-là. Donc cette transition ne concerne exclusivement que la plateforme, elle ne concerne absolument pas le patrimoine de nos clients. Les bitcoins restent la propriété totale des clients et ça ne change pas du tout. Et d'ailleurs, je rappelle aussi, mine de rien, que Stackinsat est une des rares plateformes à avoir fait la promotion de la self-custody. On a livré à date plus de 1500 bitcoins sur les portefeuilles personnels de nos clients. Cette philosophie reste évidemment intacte aujourd'hui sur cette plateforme V1. Elle le sera évidemment sur cette plateforme V2. Les retraits pendant toute cette période de transition continuent naturellement, notamment vers les cold wallets, c'est important aussi de le souligner. Les conversions en euros continuent également. Et donc là, en fait, notre rôle pendant cette période de transition, c'est accompagner nos clients sur cette transition, tout simplement.
Bon, qu'est-ce que vous retenez ? Qu'est-ce que vous faites comme bilan de cette année qui vient de se terminer, du coup ?
C'est vrai que c'est toujours intéressant en tant qu'entrepreneur et j'imagine qu'il y aura aussi des gens sur ce plateau qui vont pouvoir en témoigner. Mais c'est vrai que, je le disais tout à l'heure, une entreprise comme la nôtre, comme la mienne en particulier, on voyait, et moi c'est vrai que je le voyais vraiment comme une entreprise principalement tech. Et effectivement, aujourd'hui, avec cette nouvelle réglementation, on voit que, évidemment, toute la dimension de confiance, qui est d'ailleurs aussi à l'origine de cette nouvelle réglementation, parce que on était quand même sur un secteur assez sulfureux, et clairement, cette nouvelle réglementation apporte de la confiance, et c'est ce qui va justement permettre à nos entreprises de rester très longtemps dans la durée.
C'est une bonne nouvelle, du coup.
C'est vrai que on aurait tendance à croire que c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que on a eu énormément de contraintes, etc. Mais finalement, et encore une fois, je pense qu'on est tous d'accord, en tout cas sur les plateformes qui ont engagé ce processus de mise en conformité, on est plutôt tous d'accord, je pense, sur le fait que c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors c'est évidemment exigeant pour les entreprises. D'ailleurs, Stackinsat n'est pas la seule plateforme à suspendre ses achats. Donc on voit que on a quand même une instruction qui est très très rigoureuse. Donc elle demande davantage d'investissement. Nous, ça nous aura coûté plusieurs centaines de milliers d'euros. On doit repenser toute l'organisation. Donc je pense que c'est plutôt quelque part une bonne nouvelle, notamment pour les utilisateurs, parce que là, encore une fois, dans ce monde assez sulfureux de la crypto, cette nouvelle réglementation justement va permettre de construire des acteurs solides pour justement accompagner les clients, les familles, les entreprises, les professionnels du patrimoine. Enfin bref, toute la cible des clients qui étaient adressés par les entreprises comme la mienne. Et donc je pense qu'évidemment ça permet au secteur de franchir une nouvelle étape de son développement et c'est plutôt une très bonne nouvelle.
Merci beaucoup Jonathan Herskovici. Je vous laisse aller justement à vos obligations et continuer ce travail duquel vous nous avez parlé et on se reparlera évidemment très très vite dans cette émission. Jonathan Herskovici, fondateur de Stackinsat. Marc Lécorché, vous aussi, vous avez connu ce processus de mise en conformité, de tous ces investissements que ça demande. Effectivement, le marché est en train de se transformer. On change de modèle. C'est intéressant ça quand même. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, exactement. Pour reprendre ce que disait Jonathan, c'est vraiment un changement de modèle, changement de paradigme avec des acteurs de référence qui ont émergé de cette loi MiCA.
Ouais.
Pour rappel, 120 PSAN, 31 acteurs agréés en France, PSCA. Il devrait y en avoir encore quelques-uns qui sortent des derniers collèges de l'AMF. Et oui, très clairement, sur la partie cybersécurité, je pense que c'était un point avec DORA, nouvelle réglementation européenne. La gouvernance, il faut le dire quand même, avoir un organe de surveillance pour des entreprises comme DEPSAN. On est à peu près une dizaine de personnes chez Quarks. Quand il y avait DEPSAN où ils étaient deux ou trois, ben, il faut recruter pour pouvoir combler tous les trous, avoir une organe de surveillance solide qui vient justement s'assurer que le PSCA fait les bonnes choses. Donc oui, c'est une structure qui est assez lourde, mais ça permet justement de rassurer les investisseurs.
C'est ça, ça va solidifier le marché, crédibiliser peut-être le marché, qui se bancarise beaucoup, hein, on le dit, hein, depuis qu'on a passé cette date du 1er juillet, Grégory Raymond. Mais c'est vrai que pour les acteurs, là, en ce moment, il y a une sorte de... On est dans une sorte de zone grise, de mise, finalement, d'organisation, d'après ce 1er juillet. Il faut que tout ça retombe en réalité.
Oui, c'est ça. Mais on peut penser que en fait, ceux qui ont eu l'agrément sont arrivés au bout. En fait, non. C'est que le début. C'est que le début. Et c'est ça qui peut paraître un peu difficile à comprendre, hein, parce qu'on parle de cette date, hein, du 30 juin depuis très longtemps. Et en fait, voilà, maintenant, on y est et c'est que le début. Et faut se rappeler que la plupart des brokers, ben, maintenant, se battent quand même avec des géants étrangers type Kraken, type Coinbase. On rappellera que les acteurs français, cas franco-français, reste quand même assez petit et ils vont avoir, voilà, énormément de concurrence sur ce marché.
La suite, c'est quoi, par exemple, Marc Lécorché?
Les premiers contrôles de l'AMF, ouais, en 2027.
Parce qu'elle est encore là, l'AMF.
Ils ont déjà donné effectivement le calendrier. Ils viendront contrôler les PSA agréés sur trois points. La cybersécurité, justement, qui est un élément très important. Les exigences réglementaires. Donc, est-ce qu'on fait bien, on a mis bien en place tout le contrôle interne? Et après, la communication vis-à-vis des clients. Et je pense que ces trois points expliquent aussi pourquoi certains acteurs n'ont pas obtenu MiCA. Qui sont des points fondamentaux, la façon de communiquer vis-à-vis des clients, communication loyale et pas trompeuse et non trompeuse. Et puis après, derrière, sur la cybersécurité, on le voit malheureusement, il y a eu des failles sur certains prestataires au cours des dernières années qui ont notamment facilité les enlèvements crypto. Donc je pense que l'AMF se trompe pas en se positionnant sur ces trois points-là qui sont importants.
Il va y avoir aussi une course à la communication et à la confiance dans ces mois d'été pour récupérer les clients qui se trouvent un petit peu sur le carreau, ceux qui ne font plus confiance aux acteurs qui ne sont pas agréés MiCA, ceux qui étaient chez Binance, tous ceux-là. Il va falloir un petit peu communiquer pour montrer qui est le meilleur, finalement.
C'est ça, exactement. Et essayer de bien se positionner. Oui. Pour notre part, chez Quarks, on travaille avec les professionnels du patrimoine et on les accompagne sur la durée. On a vu des clients qui sont venus d'eux-mêmes en prenant la liste des PSCA sur l'AMF pour trouver des acteurs de confiance. Donc on voit que ce travail marche, c'est-à-dire d'avoir référencé des acteurs de référence. Donc c'est plutôt positif, mais oui, il faut communiquer. Après, le marché est compliqué, on est en marché baissier, entre guillemets, ou avec un Bitcoin qui tourne aux alentours.
Que vous me lancez, voilà,
63 000 dollars. Donc c'est vrai que, en tout cas, les clients privés, on voit que l'engouement reste relativement faible, alors que ça devrait être le moment où il faudrait rentrer.
C'est pour ça que je le dis. Enfin, c'est maintenant qu'il faut communiquer, c'est maintenant qu'il faut entrer. Enfin, là, on est a priori sur les bas de ce cycle-là. Il faudrait quand même que les gens le comprennent.
Historiquement, quand même, le mois d'août n'est pas très bon, hein. Donc, je pense qu'il faut attendre encore un petit peu.
Ouais.
Mais en fait, statistiquement, la fin du cycle baissier pourrait intervenir. Alors, c'est large, hein, mais c'est entre maintenant et le mois d'octobre. Donc, il faut quand même se méfier. Tout n'est pas encore terminé. Hein. Mais ça reste quand même globalement un meilleur moment pour acheter plutôt qu'en octobre dernier.
Oui, effectivement. Est-ce que les stratégies, comme ce qu'a fait Stratégie d'ailleurs, de revendre du Bitcoin, alors qu'elle avait dit qu'elle ne revendrait jamais ses Bitcoins, ça inquiète justement les investisseurs? C'est des signes un petit peu qui inquiètent?
Oui, alors Strategy a vendu 3600 bitcoins la semaine dernière.
3588, me semble-t-il.
Exactement, pour être précis, oui. À un cours d'environ 60 000 dollars, donc en perte par rapport à leur prêt de revient qui était de 77 000 dollars. Mécaniquement, ça éveille la question de quelle est la stratégie puisque ils avaient acheté le mois dernier à peu près la même quantité, 10% au-dessus, donc ils matérialisent mécaniquement une moins-value. Je pense que ce qu'a voulu réaliser Strategy, c'est rassurer les investisseurs et les agences de notation, dont Standard & Poor's, qui leur avaient pas fortement recommandé de montrer qu'ils étaient capables de vendre du Bitcoin pour payer les dividendes, notamment de l'action préférentielle STRC. Et on l'a vu, ça marche plutôt bien. Dès qu'il y a eu l'annonce, le marché a baissé de 2% et on a repris 4% tout de suite après. Et BlackRock a annoncé avoir renforcé sa position dans l'action préférentielle STRC pour la faire revenir proche du pair qui est à 100. Donc, mauvaise nouvelle à très court terme, qui est plutôt vue comme une bonne nouvelle, et ça enlève justement les soupçons de, on va dire, schéma de Ponzi que Strategy, dont on pouvait accuser Strategy.
Il y a peut-être une explication au fait que pourquoi ils vendent maintenant alors que leur prix d'achat moyen est au-dessus, c'est qu'il y a peut-être un sujet fiscal. En fait, ça leur permet de déclarer un peu moins. Donc, ils avaient déjà fait ça, il me semble, l'année dernière. Donc, à mon avis, il faut plutôt voir cette vente un peu bizarre, c'est vrai, vu le moment, pour avoir un peu un arrangement fiscal.
Parlons de notre troisième sujet, les marchés prédictifs. On a déjà parlé sur ce plateau avec Hubert de Vauplane, mais là, l'ESMA vient de se pencher sur la question, concrètement, sur ces marchés prédictifs en Europe. Pierre d'Ormesson, qu'est-ce que cette prise de position change pour les marchés prédictifs en Europe, concrètement?
Mais je pense, Sandra, la prise de position de l'ESMA, elle vient dissiper un brouillard réglementaire, une zone grise, parce que actuellement en France, les marchés prédictifs sont interdits par l'Autorité nationale des jeux parce qu'ils sont assimilés à des jeux d'argent.
Ouais.
Mais l'ESMA vient dire, à côté de ça, ça peut être un produit financier. Et ce que l'ESMA a dit, c'est que si jamais votre contrat va être d'événement, puisque les marchés prédictifs, on achète des événements, est-ce que la France va gagner la Coupe du Monde ? Oui, non. Si le sous-jacent est financier, alors c'est un produit financier et donc on tombe sous le coup des réglementations classiques qui s'appliquent au secteur financier. Mais en faisant ça, l'ESMA a aussi dit, pour nous, c'est une option binaire. Or, le problème, c'est que les options binaires en France, elles sont interdites à la commercialisation auprès des particuliers. Donc, on coupe le marché, on va dire, pour l'accès au marché prédictif en France, sur ces, on va dire, sous-jacents financiers. C'est quand même à prendre en compte. C'est toujours possible pour la partie, on va dire, institutionnelle, business, mais il faut un agrément pour le faire.
C'est intéressant. On va peut-être rappeler ce que c'est, quelles sont les boîtes de ce secteur et la taille de ce marché aujourd'hui, les principaux acteurs aussi, Grégory.
Alors, c'est un énorme marché qui est en pleine croissance.
Depuis l'élection américaine.
Ouais, la plupart des gens, en fait, ont découvert des noms comme Polymarket ou Kalshi à la fin de l'année 2024. Et à ce moment-là, les volumes de paris mensuels, on était entre 2 et 4 milliards de dollars. Aujourd'hui, là, notamment grâce à la Coupe du Monde, on est sur 45 milliards de volume mensuel. C'est 10 fois plus qu'en janvier, donc ça explose totalement. Donc les gros acteurs, Polymarket, même si c'est pas le plus gros c'est Kalshi. Et Kalshi, en fait, a l'avantage d'être beaucoup mieux régulé et aussi d'être distribué par Robinhood, donc qui est un peu le géant des brokers grand public aux États-Unis. Donc voilà, ça représente à peu près ça, ce marché. Ouais.
Et vous l'avez dit, Pierre, les États-Unis, encore une fois, agissent totalement différemment sur cette question. Ils ont fait le choix de réguler plutôt que d'interdire, comme nous on l'a fait. Bon, bah, comme à chaque fois en matière de réglementation, on a deux stratégies différentes en réalité, Pierre.
Oui, là, c'est clairement marqué parce que ce qui s'est passé, c'est que dès novembre 2025, la CFTC, donc la Commodity Future Trading Commission, qui est une autorité donc fédérale, a dit à Polymarket qu'elle pouvait en fait vendre ses contrats aux résidents américains et a notamment été, on va dire, légiféré et en plus en justice contre les États comme l'Illinois, l'Arizona et le Connecticut qui avaient en fait passé des lois au niveau étatique en disant c'est des jeux d'argent illégaux. Et ils ont dit c'est de notre compétence, donc vous ne pouvez pas dire ça et c'est nous qui allons réguler. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des propositions maintenant bipartisanes pour faire un cadre ad hoc, ce qui va permettre en fait que ces champions soient encore des plus grands champions et prennent vraiment en tsunami, on va dire, l'Europe et les États-Unis sur ces marchés-là, qui balbutient un petit peu dans la réglementation, où là, comme on disait, on tombe, est-ce qu'on tombe dans une case déjà régulée plutôt que de créer un système séparé.
On rappelle pourquoi on en parle dans l'émission crypto, c'est parce que c'est sur la blockchain.
Pour Polymarket, oui.
Pour Polymarket, par exemple.
Non, mais ça fait partie un peu du même univers, parce que quelque part, on est un peu dans le gambling, hein, et donc la crypto est quand même assez proche de tout ça. Hein.
Ouais, faut pas le dire trop non plus. mais est-ce que les données confirment que ces plateformes revendiquent une utilité informationnelle, justement, pour éviter de tomber dans le secteur des paris?
Moi, c'est le sujet qui m'intéresse le plus, en fait, sur les marchés prédictifs, c'est à quel point c'est utile pour la société. Parce qu'en fait, on peut se dire, bah, c'est que du gambling, donc c'est pas forcément utile. C'est pour ça qu'en Europe, on en veut pas. Effectivement, il y a plein de cas où, effectivement, on se demande ce que ça apporte à la société. Par contre, en fait, ça a montré que, notamment pour prévoir des résultats de scrutins électoraux, c'était très utile. Bon, l'exemple qui revient tout le temps, c'est les élections américaines. En fait, sur Polymarket, des semaines avant les sondages, Trump était donné en tête de très loin, au moment où c'était pas évident hein, qu'il gagne. Donc il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Pour moi, en fait, l'avantage de ces systèmes-là, c'est la réactivité. En fait, quand il se passe quelque chose sur un marché prédictif, en quelques secondes, mais en temps réel, en fait, ça se met à jour, on a une tendance. Alors, c'est une probabilité, c'est pas une intention de vote, donc c'est différent des sondages, mais quand même, ça donne
ça peut le remplacer.
Mais, pour moi, c'est complémentaire quand même.
Complémentaire.
Parce qu'en fait, il y a des limites sur les marchés prédictifs, parce que s'il y a quelqu'un qui mise trop, en fait, ça va y avoir une sorte de déséquilibre. Parce que le marché prédictif, c'est basé sur le fait qu'il y ait plein de monde, que ces gens aient un profil très diversifié. Et en fait, il y a quelqu'un qui arrive, qui pose 80 millions de dollars, comme un trader hein, pendant les élections américaines qui s'appelait Théo, un trader français. En fait, c'est lui qui a fait pencher en faveur de Trump, mais à lui tout seul. Et en fait, je trouve que même si il avait vu juste, ça fausse en fait le concept qu'on appelle de la sagesse des foules, où en fait on estime qu'une foule va avoir raison par rapport à un expert.
Oui, c'est ça, effectivement.
Il faut que ce soit liquide et diversifié pour que ça marche.
Quels sont les principaux risques juridiques justement que soulèvent ces marchés? Pourquoi nous, on a décidé de l'interdire finalement? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous?
Dans le communiqué de l'Autorité nationale des jeux, la première chose, c'est de dire qu'il y a des contrats qui sont immoraux. C'est-à-dire qu'on va parier sur l'assassinat de quelqu'un ou l'entrée en guerre. Et ça, on l'a vu beaucoup avec la guerre en Iran. Oui. Et en plus de ça, puisqu'on parle des risques juridiques, du délit d'initié. Il y a par exemple des anciens militaires qui ont accès à des renseignements classifiés et qui ont pris avec des complices des positions sur les marchés prédictifs pour un gain financier. La manipulation aussi, parce qu'on l'a dit, ça repose sur la blockchain, Polymarket, et donc quand on parle blockchain, on parle oracle. L'oracle, c'est ce qui va donner en fait la référence du monde extérieur dans la blockchain. C'est-à-dire qu'elle va alimenter la blockchain pour pouvoir régler les marchés prédictifs. Et là, il y a la fameuse affaire dite du capteur de température de Roissy-Charles de Gaulle, où il y avait un marché prédictif donc sur la température une journée à Paris, et on pense et allégué que quelqu'un est venu avec un sèche-cheveux chauffer le capteur pour monter la température et ainsi gagner, prendre son gain sur ce pari. Donc là, on voit que si on manipule l'oracle, le marché est faussé. Et dernièrement, je pense qu'il y a les conflits d'intérêts. Et là, on le voit beaucoup aux États-Unis, mais là-bas, c'est moins un problème. Le fils de Donald Trump Jr., il est à la fois conseiller stratégique chez Kalshi et il est aussi investisseur via ses entreprises dans Polymarket. Donc on peut se dire, est-ce que le fils de Trump n'a pas des informations via son père sur les événements qui sont proposés sur les plateformes?
Ça va loin de parler de la famille Trump de cette façon, Pierre Dormesson. Quel est le profil des utilisateurs de ce type de plateforme, alors, Grégory?
Il est en train de changer. Au début, c'était vraiment très crypto-natif. Donc, cette population très masculine, qui est donc amateur un peu de sensations fortes sur les marchés. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que l'âge moyen, c'est une trentaine d'années. Il y a 25% de femmes, donc c'est censé être quand même plus élevé que sur le ratio homme-femme dans les investisseurs crypto, donc c'est pour ça que ça change. Par contre, il y a toute l'activité est faite par un noyau dur en fait de joueurs ou d'investisseurs, vous les appelez comme vous voulez. En gros, 1% des utilisateurs sont responsables de 70% des volumes. Donc il y a en fait une énorme concentration, ce qui n'est pas très bon en fait pour la fiabilité des résultats qui peut y avoir derrière quand on veut vraiment avoir des tendances. Mais c'est en train de bouger parce que ce côté un peu crypto-natif, il est en train de s'ouvrir. Donc comme je le disais tout à l'heure, Kalshi est distribué maintenant par Robinhood. Robinhood, bien sûr, il y a de la crypto, mais il y a en gros tous les investisseurs américains aussi dessus. Donc en fait, ces gens-là, des investisseurs traditionnels, sont en train d'y participer, et c'est ça qui est un peu en train de changer cette nature. Et quand même, globalement, c'est un marché qui reste américain, même si avec des VPN, on peut quand même utiliser Polymarket, ça reste quand même très américain. Mais les Américains ne peuvent pas légalement accéder à Polymarket, la version qu'on connaît.
Ouais.
Ils peuvent accéder à une version qu'on appelle Polymarket US, qui est en fonction depuis décembre dernier, mais qui demande un KYC total.
Et justement, il nous reste une minute, Pierre. Si on mettait une sorte de MiCA pour ces entreprises-là spécifiquement, peut-être qu'on arriverait à...
Oui, on arriverait à faire émerger des champions européens, peut-être, et un petit peu lutter contre l'hégémonie américaine, comme on voit dans les stablecoins, le marché des stablecoins. Et effectivement, ce qu'on oublie de dire, c'est que MiCA peut aussi s'appliquer à ces plateformes, parce que si le contrat financier en dessous, il y a un sous-jacent crypto, bah forcément, on tombe dedans. Donc, on voit vraiment, on revoit les prémices d'avant MiCA dans ce qui se passe avec les marchés prédits.
Et il y a des acteurs en Europe qui tentent de se positionner, Greg ?
Alors, il y en a beaucoup qui aimeraient. Pour l'instant, il y en a zéro qui le peuvent. Alors par contre, ceux qui regardent la Coupe du Monde en ce moment, vous avez peut-être vu sur le long des terrains, il y a un sponsor qui est partenaire de la FIFA qui s'appelle ADI Predict Street. C'est en fait l'équivalent de Polymarket ou Kalshi, mais soutenu par Abu Dhabi. Et donc, c'est un sponsor de la FIFA. Et je vous le donne en mille, le prix qui a été payé à la FIFA pour s'afficher au bord du terrain, c'est 200 millions de dollars.
Oui, d'accord.
Information The Big Whale.
Oui, effectivement. Merci, messieurs, pour cette émission. Marc Lécorché, président et cofondateur de Quarks. Grégory Raymond, cofondateur de The Big Whale. Pierre Dormesson, partner chez DL & Piper. Merci d'avoir été dans cette émission. Le club BFM Crypto, à retrouver aussi en podcast et en replay. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Très bonne journée sur BFM Business.
BFM Business, BFM Crypto, le club.